La revue La Pensée de Midi vient de faire paraître son dernier numéro, intitulé « Tanger, ville, frontière ». Un numéro composé sous la direction de Michel Peraldi, sociologue. Un numéro qui s'inscrit dans la série des portraits de villes après Athènes, Alger, Palerme et Beyrouth. On y trouve dévoilées quelques-unes des facettes de Tanger, ville traversée et débordée par de nombreuses frontières. Le 25 mars 2008, Thierry Fabre, rédacteur en chef de La Pensée du Midi, présentait ce dernier numéro aux archives et bibliothèques du département, situé rue Mirès à Marseille. Une présentation suivie de la projection du film de Leïla Kilani, intitulé Tanger, le rêve des brûleurs. Pour cette présentation, Thierry Fabre était entouré de Myriam Cher, anthropologue, Simon-Pierre Hamelin, écrivain et libraire à Tanger, Driss Xikès, écrivain dramaturge, et de Michel Peraldi, sociologue.
Comme je vous le disais tout de suite, ce numéro est d'une discussion avec Michel Peraldi. Donc je vais, mon rôle est ici de faire passer la parole et donc lui donner tout de suite. Au fond, pour qu'il nous dise en quelques mots ce qu'il entend par Tanger, ville transnationale et pas simplement ville internationale, comme on a dans la mythologie de Tanger beaucoup raconté. Et je crois qu'il montre ce que signifie Tanger au temps présent, Tanger loin de ses lieux communs, et Tanger qui vibre au fond avec le monde contemporain et qui est une ville qui est, je crois, en pleine métamorphose, en pleine transformation. Alors, Michel Peraldi, Tanger transnational, qu'est-ce à dire ? Et pourquoi pas international ?
J'ai un peu du mal à en parler, comme je peux parler, par exemple, de Marseille ou d'autres villes sur lesquelles j'ai travaillé, parce que je ne considère pas que j'ai travaillé sur Tanger, je considère que j'ai écrit sur Tanger, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a une approche très impressionniste, très littéraire, d'une ville qui, effectivement, je dirais, a quelque chose d'une étoile morte. Moi, je pense souvent que la Méditerranée, c'est un lieu d'étoiles mortes, c'est-à-dire des étoiles qui ont brillé très fort à une époque ou à des époques dans l'histoire et qui, tout d'un coup, se sont éteintes pour les étoiles et qui continue à rayonner d'une certaine manière. Donc Tanger a la réputation d'une ville de haute littérature, d'une ville internationale, Paul Bowles, etc. Sauf que quand on arrive à Tanger, moi je suis arrivé à Tanger de manière très pragmatique pour y chercher des gens sur lesquels je travaille en ce moment, en anthropologue très sérieusement, qui sont des gens que j'appelle des parvenus, c'est-à-dire des gens qui en gros ne sont pas légitimes dans les milieux économiques dans lesquels ils travaillent. Et je suis allé en chercher à Tanger parce que j'avais un peu, on m'avait raconté un certain nombre d'histoires sur les trafics de produits que la morale réprouve, etc. On m'avait dit que Tanger était une ville dans laquelle le parvenu était quelque chose qu'on rencontrait de manière assez courante. Donc je suis allé chercher des parvenus. J'en ai trouvé, effectivement. J'en parle un peu dans le texte que j'ai fait. Mais j'ai surtout trouvé une ville qui était en train d'inventer quelque chose d'une nouvelle économie, d'une nouvelle posture économique que j'appelle transnationale. Par différence à l'international, l'international, c'est de l'inter, c'est-à-dire qu'on partage quelque chose. On est un pied d'un côté, un pied de l'autre, de manière très légitime. C'est la diplomatie, c'est les États qui font de l'international. Le transnational, comme son nom l'indique, il y a du trans, donc il y a de la transgression. Il y a de la transcription aussi, mais il y a de la transgression. C'est-à-dire, quand on est dans le transnational, on n'est ni dans un national ni dans l'autre, on est au-delà, dans une espèce de lieu un peu interlope, un peu vague, un peu bizarre, qui est ni l'espace national espagnol, par exemple, ni l'espace national marocain, mais une espèce de lieu un peu interlope dans lequel on partage les choses, qui est un lieu souvent de mobilité. Alors on peut dire des choses beaucoup plus sérieuses. On peut dire par exemple qu'aujourd'hui, Tanger est en train d'ouvrir sur la Méditerranée, ce qui sera probablement le prochain futur grand port de la Méditerranée, grand port à conteneurs de la Méditerranée. Marseille a besoin de se serrer les coudes, parce que probablement que les quelques conteneurs qui restent encore aujourd'hui à Marseille seront dans 2 ans à Tanger. Donc Tanger est en train de devenir un grand port à l'échelle mondiale, un grand port mondial, mais un grand port transnational. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ce qui va faire la réussite du port de Tanger, c'est que des accords commerciaux déjà ont été passés avec des Émiratis, puisque c'est en fait une société de Dubaï qui va gérer le port de Tanger. dans des accords commerciaux avec la ville d'en face qui s'appelle Algeciras. Autant l'Espagne est prête à fermer ses frontières quand il s'agit de faire passer des halagas, les brûleurs de frontières, autant l'Espagne est prête à les ouvrir très grands quand il s'agit de gérer du commerce et des marchandises.
Donc, c'est tout le paradoxe des relations euro-méditerranéennes aujourd'hui où absolument. Les marchandises circulent mais pas les hommes.
Voilà. Et donc le port de Tanger est dans un accord commercial avec le port d'Algeciras et on va avoir là un dispositif, ça s'appelle comme ça en langage technique, un dispositif portuaire qui sera partagé entre Algeciras et Tanger et qui permettra sans doute de faire circuler des marchandises, des conteneurs. Le transnational, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'activité économique et je dirais même le pragmatisme économique efface d'un trait de plume ces frontières qui sont si lourdes politiquement, si lourdes à porter. Alors je sais bien que le rédacteur en chef n'aime pas l'image, mais entre-temps, après Tanger, je suis allé me promener dans une autre ville frontière, ô combien frontière, qui est Tijuana, sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Tijuana est une ville qui est fermée par un mur qui ressemble beaucoup au mur entre Israël et la Palestine, mur de béton, très solidement fait, avec des gatekeepers qui font des patrouilles autour du mur. Mais vous avez une porte dans laquelle passent toutes les minutes des camions qui vont amener aux États-Unis le produit des usines qui travaillent sur ce qu'on appelle les maquiladoras, ces usines délocalisées qui fabriquent aujourd'hui pour les États-Unis la quasi-totalité des téléviseurs, des jeans, etc.
Et quelle est Tanger, la différence justement entre Tanger et ces villes
aucune. La seule différence, elle est des flux. Tanger, il y a 3-4 millions de personnes qui font la route sur le Détroit. Le Détroit est une tout petit espace. Tijuana, c'est 50 millions de personnes par an. La seule différence, elle est quantitative à cette échelle. Mais Tanger est en train de devenir aussi une ville de maquiladoras, c'est-à-dire d'entreprises délocalisées. Une célèbre marque espagnole qui porte le nom de la femme de Zorro est installée aujourd'hui de manière très très puissante et très forte sur Tanger. Et la quasi-totalité des fringues que portent aujourd'hui les Espagnols sont faites sur Tanger dans les entreprises textiles, avec une particularité qui est que ces entreprises sont toujours doublées de tout un réseau d'entreprises informelles, d'ateliers informels, qui font les mêmes fringues pour moins cher, dans des conditions
Donc là, on voit que l'homme de...
Le transnational, c'est ça.
L'homme de Caba et Conteneur qui a exploré ça à partir de Marseille, j'irais transplanter ce regard et ces éléments d'analyse à partir de Tanger. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la forme de la ville elle-même et son rapport à la frontière, qui était une autre façon de l'appréhender, peut-être dans le récit, dans cette façon dont ça se vit à Tanger, dans ces personnalités qui travaillent et qui traversent Tanger. Pour rester un peu pour donner quelques éléments de portrait de la ville, parce que là, il y a cette dimension, je dirais, transnationale, effectivement, d'ouverture, d'échange, mais il y a ce qui se trame dans la ville elle-même pour permettre à ceux qui ne connaissent pas encore Tanger et qui aimeraient peut-être la découvrir, de savoir un peu se repérer et voir un peu cette idée du rapport à la frontière. Je sais que Michel Peraldi a fait un assez grand colloque sur la question de la frontière à Tanger. Quelques pistes dans ce terrain-là avant que je passe la parole à Myriam Scheer.
Je pense aujourd'hui que Tanger a externalisé la frontière. Peut-être Driss pourra dire des choses là-dessus. J'ai l'impression que la frontière a été externalisée à Tanger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tanger, contrairement par exemple à ce que peuvent dire un certain nombre de militants, il n'y a plus aujourd'hui de brûleurs de frontières à Tanger. Il peut y avoir des gens qui sont dans des situations sociales, Myriam le sait, des gens qui sont dans des situations sociales très compliquées, mais la plupart des brûleurs de frontières aujourd'hui sont partis. Et donc Tanger est une ville en quelque sorte assainie du point de vue même de son rapport à la frontière. C'est-à-dire que la frontière est un lieu de passage très fluide. Là où c'est pas fluide, c'est à Ceuta, Melilla, et Ceuta est à quelques kilomètres de Tanger. Et donc Ceuta est une sorte, en quelque sorte, presque d'hystérie de la frontière, puisqu'il y a du barbelé, il y a du grillage, il y a aussi du gatekeeper espagnol, des patrouilles, etc., et des gens de l'autre côté qui font pression, qui sont des subsahariens, qui ont envie de passer, etc. Tanger a réussi, en quelque sorte, une sorte de nettoyage symbolique de tous ces gens qui matérialisaient la frontière, puisque la frontière n'est pas matérialisée. Qu'est-ce qui matérialise la frontière à Tanger ? C'est les gens qui, tout d'un coup, par leur volonté de passage ou par leur désir d'Europe, matérialisent la frontière. Sinon, la frontière n'a aucune matérialité. C'est un bras de mer qui se passe très facilement, en 35 minutes. C'est à peu près aussi facile de passer le bras de mer entre Tanger et Tarifa que de faire Vieux-Port-Lestac par temps calme, ou d'aller au Château d'If, ou d'aller au Frioul. Donc, je veux dire, c'est un passage extrêmement rapide, fluide.
À condition d'avoir les papiers pour pouvoir.
À condition, c'est ce que j'allais dire, à condition d'avoir le droit de passage. Donc la frontière à Tanger, paradoxalement, est devenue aujourd'hui totalement immatérielle et symbolique. Et la vraie frontière, entre guillemets, c'est-à-dire la frontière dure, politiquement rigidifiée, et la vision aujourd'hui paranoïaque de l'Europe, enfin, en tout cas, la manière dont l'Europe aujourd'hui est en train de construire le Sud dans son rapport paranoïaque, elle n'est pas à Tanger, elle est à Ceuta.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, construire le Sud de façon paranoïaque ?
C'est un point de vue qu'on peut discuter, mais moi j'ai l'impression que l'Europe aujourd'hui est en train de se construire des frontières fluides, discutées et un voisinage amical au nord, et est au contraire en train de se construire de la différence, de l'altérité radicale au sud. C'est une sorte de décalage dans la manière dont l'Europe pense ses limites et ses marches, et ses marges aussi, et qui est aujourd'hui, à mon avis, assez caractéristique de la politique européenne en matière de migration notamment, mais en matière de frontières en général.
On parlait du marquage, marquage de la frontière. Il y a aussi un certain nombre de frontières sociales, j'imagine, Myriam Scheer, de ce monde de la nuit, appelons-le comme ça, sur lequel vous travaillez. Donc ce serait peut-être bien de nous donner quelques éléments de repère sur ces lieux qui font la nuit de Tanger, et puis aussi, au fond, sur ce commerce des corps, puisque c'est comme ça que ça se joue, mais de façon beaucoup plus subtile et que ce qu'on veut bien le dire. Avec là aussi, il y a des images qui sont trimballées de la Tanger, des vieux films, enfin de la traite des blanches et tout ça. Donc j'aimerais bien que vous donniez quelques aperçus à partir d'un travail de terrain important que vous avez mené et que vous continuez à mener à Tanger. Myriam Scheer.
Donc avant de parler des frontières sociales, je voudrais un petit peu rebondir sur des frontières nationales. On pense souvent Tanger, ville internationale, Tanger tournée vers le Détroit, Tanger qui tourne le dos au reste du Maroc, ce qu'on appelle là-bas l'intérieur, Dakhil. En fait, Tanger est une ville actuellement qui est aussi très tournée vers le reste du Maroc, et peut-être plus qu'elle ne l'est vers l'Europe. En tout cas, à travers ce que j'observe en matière de mouvement féminin vers la ville. Donc aujourd'hui, cette ville qui devient la deuxième ville économique du pays accueille un nombre très important de femmes qui viennent travailler, investir l'industrie du sexe. Donc des femmes qui viennent de l'intérieur, d'autres villes du Maroc, qui viennent de milieux ruraux, qui viennent des montagnes du Rif alentour, et puis certaines aussi, mais ce sont quelques cas qui peut-être vont grossir, qui viennent des pays subsahariens.
Parce que c'est quand même une ville très festive, Tanger. Ouais. C'est une ville connue pour les plaisirs de la nuit.
Tanger, bien sûr, à l'époque internationale, était connue pour son côté festif, qui était très huppé. Et aujourd'hui, c'est un côté festif qui est très teinté de glauque. Donc, mon travail à Tanger consiste à observer ce qu'est la prostitution, mais pas uniquement la prostitution comme on l'entend aujourd'hui en Europe, plutôt ce que j'appelle les transactions amoureuses. Donc, observer tous ces rapports qui ont lieu entre hommes et femmes, et où l'argent a une importance capitale. Donc être une fille qui vend ses charmes, ce n'est pas être une prostituée au sens européen, mais c'est être une personne qui est impliquée dans une relation qui peut durer plusieurs mois, des années, avec un échange amoureux, suivi de cet échange financier.
Alors, est-ce que la figure de la chirat qui est connue, est-ce que c'est distinct de ce dont vous parlez?
Alors c'est très distinct parce que la chira, on est déjà dans une profession, je dirais, artistique, puisque la chira au Maroc est une personne qui depuis plusieurs siècles fait de son corps, mais aussi des arts qu'elle manie, donc le chant, la musique, la poésie. En gros, la Shira est une courtisane locale. Donc elle n'a rien à voir avec les prostituées. D'ailleurs, à Tanger, actuellement, on a ces deux milieux qui se côtoient. Donc l'article qui parle sur la Calle del Diablo, donc une des rues, un quartier, en fait, le Diablo, c'est plutôt le quartier où il y a plusieurs rues qui sont des lieux de la prostitution. On a chaque soir, de part et d'autre, des femmes qui se mélangent. D'un côté, des chéras qui sont là et qui défendent leur art. Et de l'autre, des jeunes filles plutôt très très modernes qui sont ici, qui accompagnent des clients, qui accompagnent leurs petits copains, et donc ça donne lieu.
Qui viennent
à
donc, peut-être qu'on pourra avoir quelques repères de lieux et de la façon dont ça se passe au fond à Tanger. Comment ça se vit cette vie nocturne et comment, dans quel lieu, avec quel type de rituel?
Alors. Sur les lieux nocturnes à Tanger, il y a différents quartiers qui sont liés à la classe de des personnes qui les côtoient. Donc bien sûr, on a un front de mer qui est où il y a une fête très très classe qui s'y fait et où les femmes qui les fréquentent sont ce qu'on appelle des prostituées de classe ou de luxe. Et puis il y a d'autres lieux comme celui-ci qui de la Calle del Diablo qui se situe au centre, autour du boulevard et qui était l'ancien lieu UP de la ville internationale où là on a une prostitution nationale donc avec entre Marocains et où c'est plutôt un milieu plus assez populaire.
Alors qu'est-ce qui vous a frappé, oui, Candina vous frappé, puis dans ces histoires de vie, puisque ce sont des personnes que vous fréquentez de près, avec qui vous dialoguez beaucoup.
Oui, enfin moi, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'était de voir que ces personnes liaient des relations totalement banales, qui pour moi ressemblaient à toute relation qu'on peut avoir quand on a entre 20 et 30 ans avec le partenaire de l'autre sexe. Ce qui m'a attirée dans ces relations, c'est de voir qu'on n'était pas dans de la froideur, mais qu'à l'intérieur, il y avait d'autres choses qui s'échangeaient. C'est notamment ce qu'on voit quand on est dans un lieu, dans un bar ou une discothèque. On n'est pas vraiment dans de l'échange où le client va voir la prostituée à la fin pour partir après s'être amusé, mais on arrive souvent ensemble, on arrive accompagné de la fille avec qui est notre prostituée ou notre petite amie depuis plusieurs mois, et on est vraiment dans des échanges festifs, on s'aime, on s'engueule.
On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais peut-être un mot, Michel Perraldi, sur l'économie souterraine ou si peu souterraine de la drogue à Tanger.
Le cycle économique de Tanger est assez simple. Tanger, après l'indépendance, a plongé dans une sorte de léthargie, malgré le fait qu'existait, Myriam pourrait le confirmer, mais existait sur Tanger une tradition de ville internationale liée à la prostitution, mais liée aussi à des trafics internationaux. Un certain nombre de grands noms du grand banditisme marseillais ou corse et marseillais ont investi sur Tanger dans les années 50. Et dans le trafic de cigarettes et dans un certain nombre de lieux qui étaient des hauts lieux à l'échelle méditerranéenne. La première internationale était une internationale méditerranéenne du banditisme. Je veux dire, on a quelques noms de grands noms du banditisme qui investissaient sur Beyrouth, sur Tanger, aussi bien que sur Marseille et d'autres lieux. Donc, Tanger est tombé dans une sorte de léthargie. Tanger s'est réveillé de manière extrêmement artificielle dans les années 80, à partir du moment où, précisément, le trafic de drogue, de cannabis, a pris le haut du pavé dans cette région. Il faut savoir que après la guerre du Liban, le Maroc est devenu le premier producteur européen de cannabis. Pourquoi je dis premier producteur européen ? Parce que c'est l'Europe qui consomme 80% du cannabis produit au Maroc. Donc c'est un producteur européen de ce point de vue-là. Et donc Tanger, il y a des dizaines, voire des centaines d'immeubles vides, construits, vides. Parfois, on ne prend même pas la peine de mettre des portes et des fenêtres, parce qu'il n'y a aucun bureau qui va occuper ces immeubles de bureaux. C'est simplement de l'argent. Moi, je ne dis pas blanchi, parce que le terme blanchi a une connotation morale et qui n'a pas de sens en termes d'économie. C'est de l'argent placé. C'est-à-dire que quand vous êtes sur du commerce illégal et de l'activité, de l'économie illégale, il y a bien un moment où il faut convertir l'argent en argent légal. Et ça passe très souvent par le foncier et par l'immobilier, parce que c'est la façon la plus pratique de convertir de l'argent illégal en argent légal. Donc toute cette économie-là a surdéveloppé Tanger, très artificiellement jusqu'aux années 2000. À partir des années 2000, le projet Tanger Med, l'arrivée des maquiladoras, de l'industrie délocalisée sur Tanger, tout d'un coup a complètement réinvesti cette ville d'un nouveau rôle économique, mais en profitant de ce qui avait été fait à l'époque de la drogue. Donc on assiste aujourd'hui, moi je dirais pour le coup, on assiste aujourd'hui à du blanchiment. C'est-à-dire qu'on a une ville qui s'est développée sur de l'économie informelle et criminelle et qu'aujourd'hui est récupérée par un certain nombre d'acteurs économiques de haut niveau, transnationaux, espagnols beaucoup. Il y a une présence économique espagnole très forte à Tanger qui aujourd'hui, en quelque sorte, récupère les bénéfices de ce développement économique.
Pas mal parlé de la façon de Tanger. Je vais laisser arriver Simon-Pierre Hamelin, donc qui était toujours à l'heure marocaine, donc ce qui explique l'heure de décalage de son arrivée, et qui dirige donc la revue Nejma avec lesquelles ce numéro a été conçu. Je vais donner à entendre un petit fragment d'un conteur écrivain qui s'appelle Mrabet, que Fabienne Pavia des éditions Le Bec en l'air a édité, et qui est aussi complice avec la revue Nejma, pour donner à entendre un peu de ce côté conte cruel qu'il y a chez Mrabet, et pour petit à petit, je dirais, passer à la dimension un peu littéraire de cette ville de Tanger. Donc on a publié quelques contes, donc il y en a un que j'ai choisi là, qui fait un peu le lien avec ce que disait Myriam Scheer tout à l'heure, qui s'appelle La Lacola. Mokhtar aimait les femmes avec une passion dangereuse. Il revenait d'Amérique après y avoir passé 20 années, où il avait mené une vie de débauche. Recherché par toutes les polices pour de rocambolesques histoires d'adultère à répétition, il avait dû rentrer à Tanger clandestinement, caché dans un de ces gros cargos transatlantiques qui mouillent parfois au port. Pendant le voyage, coincé entre deux caisses en bois, il s'était décidé à abandonner les excès du passé. Ainsi, dès qu'il fut débarqué sur la terre du Maroc, il quitta ses habits européens, acheta une simple djellaba et, sans rien d'autre que sa bonne foi, se rendit à pied jusqu'au village où il avait vu le jour et où il comptait trouver refuge. Il avait cependant pris soin d'acheter une dizaine de bouteilles de Coca-Cola, dont il raffolait plus que tout, et qu'il tenait dissimulé sous la djellaba entre la taille et la ceinture. Seule sa vieille mère lui fit bon accueil. Les autres l'avaient oublié ou feignaient de même, acceptant mal qu'il revint plus misérable qu'il ne l'était à son départ. Il vécut comme terré quelques jours. Puis, n'y tenant plus, il partit un matin se promener près de la rivière où les femmes lavent le linge, dans les champs où quelques paysannes travaillaient courbées sur la terre. S'adressant à l'une d'elles, il lui minauda quelques compliments et lui offrit de goûter un peu du liquide brun de sa bouteille. N'aie pas peur, c'est très bon et rafraîchissant. C'est l'eau de l'Alacola qui donne force et vie. » La jeune fille porta ses lèvres au goulot et sourit de plaisir en avalant la gorgée. Quelques instants plus tard, elle se laissait mener sans résistance dans le creux protecteur d'un buisson. Dans le secret des bains, celui des terrasses au matin, la nouvelle se répandit comme poudre que Mokhtar charmait les jeunes et jolies filles du village en leur faisant boire un délicieux breuvage aux vertus magiques qui n'était autre, disait-on, que le sang d'une idole réfugiée jadis dans la montagne et appelée la Lacola. Et toutes les femmes de la région, belles ou laides, jeunes ou vieilles, voulaient voir la Lacola et boire de son élixir. Ainsi, elles poursuivirent sans répit le pauvre Mokhtar et lui firent une vie semblable à l'enfer, le traquant jusque dans son lit en usant de stratagèmes incroyables. Le malheureux dut s'enfuir du village en pleine nuit. On ne retrouva de lui qu'une bouteille de verre vide dissimulée sous sa couche. Il s'est réfugié à Tanger dans une pension du petit Soko. À présent, il fuit les femmes comme la peste et on le voit souvent seul à la terrasse d'un café de la place, devant une bouteille aux formes arrondies. Il n'est resté fidèle qu'à une femme, la Lacola. Donc là, vous avez l'humour et la finesse de Mrabet, au fond, pour compter Tanger. Donc Simon-Pierre Hamelin, peut-être quelques mots sur Mrabet et puis sur ce travail littéraire fait avec la revue Nejma. Et puis au fond, Tanger, ville frontière, ville transnationale et aussi ville d'écrivain, loin des mythologies justement. Simon-Pierre Hamelin.
Merci. Effectivement, je crois que l'exemple d'Emrabet comme écrivain de Tanger est assez représentatif puisque c'est d'abord un écrivain qui a su faire la liaison entre les deux civilisations, aussi difficile que ça puisse
au moins paraître. Deux.
Donc finalement, c'est Emrabet fait partie de la mythologie de Tanger. C'est quelqu'un qui a vécu à partir des années 50 à côté de la légende littéraire de Tanger. Il a travaillé avec Paul Bowles pendant très longtemps. C'est le premier écrivain marocain publié chez Gallimard. Tahar Ben Jelloun lui en a longtemps voulu.
Ah bon, pourquoi?
Donc il représente aussi un patrimoine. Emrabet ne sait ni lire ni écrire, ou assez mal. En fait, il est resté deux jours à l'école de la République et un peu plus à l'école coranique. Mais donc il ne sait ni lire ni écrire, c'est très important, puisqu'en fait, il a toujours besoin finalement d'un scribe pour...
Donc on est dans l'oralité.
Dans l'oralité. Alors on est dans l'oralité, évidemment, on peut parler d'un conteur marocain au sens traditionnel du terme, mais Mrabet a su aussi faire la liaison entre l'imaginaire du conte traditionnel arabe, marocain, ou méditerranéen même, avec cette espèce d'univers tangérois, cosmopolite, l'univers aussi de Paul Bowles... Donc il a su faire intervenir dans cette espèce de grande geste que lui, enfant, a entendu et adolescent, a continué à entendre dans les cafés. Donc l'un et l'autre, Paul Bowles et Mrabet, ont su finalement tirer le meilleur l'un de l'autre. Et donc il y a eu finalement l'invention d'une espèce de genre littéraire qui est ni... Je me souviens, avec Fabienne Pavia, qui avait publié Le Poisson Conteur il y a quelques années, on avait eu ce problème de savoir comment on devait appeler le travail d'Emrabet. Un roman, des nouvelles, lui parle de story, puisqu'il a commencé à travailler avec Paul Bowles. Donc... Alors Fabienne Pavia avait décidé finalement de garder le terme story en français, puisque vraiment story c'est une espèce d'histoire à la Mrabet avec...
On a ouvert d'ailleurs le numéro avec ses fragments, parce que c'est d'ailleurs aussi souvent des contes cruels, c'est-à-dire qu'il a au fond la dent assez dure, Mrabet.
Mrabet en fait règle des contes très clairement avec un galeriste à Tanger qui lui a fait un mauvais coup. Il règle aussi, je crois, on sait jamais qui c'est, parce que ça, il règle aussi les comptes avec le monde de la littérature officielle. Donc, moi, je crois
que... Il y a Truman Capote qui ressort.
Voilà, il y a une histoire où il y a un écrivain qui a pas d'inspiration et on lui trouve, finalement, c'est Mrabet qui trouve une djellaba qui va lui servir de ferment pour l'œuvre de ce romancier. À mon avis, c'est Ben Jelloun. On apprend aussi dans une des histoires comment Truman Capote. Alors, M. Rabet a été en contact finalement avec tous ces écrivains qui sont venus visiter Paul Bowles.
Alors ça, on est un peu dans la mythologie un peu de Tanger.
Voilà, ça c'est la mythologie.
Et c'est vrai que on est parti de Marabet parce que justement Marabet c'est pas simplement, je veux dire, c'est quelqu'un qui habite cette ville et qui la vit et donc en parlant pour préparer cette rencontre, on se disait il y a quand même beaucoup de lieux communs, de clichés sur Tanger. Et ce qui nous intéressait, c'est peut-être de les déplacer, de les décaler, d'essayer de traverser les apparences. Et donc vous, à partir du point d'observation de la librairie des colonnes, lieu important sur la littérature à Tanger, et puis de cette revue Nejma, je veux dire, quelles sont les figures de ce qui est en train, au fond, de ce qui s'écrit dans la jeune génération, de ce qui se joue aujourd'hui sur le plan littéraire à Tanger.
C'est vrai que cette légende littéraire de Tanger, qui, selon moi, n'a jamais rendu service à Tanger, parce que le fantasme, ça ne rend pas service dans la réalité. Mais par contre, on est malheureusement, pour quelque raison que ce soit, dès qu'on va à Tanger, on est forcément happé par cette légende-là. Donc, en littérature, elle est très forte.
On peut pas y échapper.
On peut pas y échapper, et beaucoup de gens y sont venus et ont pas pu l'éviter. Et donc, c'est quand on vit et qu'on travaille dans une librairie et que c'est difficile d'entendre tous les jours les mêmes choses sur un hypothétique passage de Marguerite Yourcenar, une demi-heure dans les années 60 à la Libre des Colonnes. Moi, j'en entends parler depuis des années. Jean Genet, c'est même pas la peine, alors que Jean Genet venait à Tanger pour des raisons qu'on connaît tous. D'ailleurs, tous les écrivains et les peintres, ça a commencé avec Delacroix et Matisse. Matisse est venu à Tanger deux hivers parce qu'il était dépressif en Espagne. Paul Bowles est venu à Tanger parce que, alors après, ça n'a pas changé, ça, Myriam l'a très bien dit, c'est pour des raisons de prostitution. C'est plus facile de faire certaines choses à Tanger. Depuis le XVIIe siècle, c'est quand même une ville qui est connue pour la prostitution. Donc les gens venaient aussi pour ça. Paul Bowles voulait vivre à Paris. Il n'avait pas assez d'argent. Donc il s'est finalement acheté une île près du Sri Lanka. Et puis finalement, il est venu à Tanger parce que là, il avait. Mais on en parle jamais de ça. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu une thèse qui a été écrite par Marie Caraes, je crois, il y a 5 ans, qui détruit ce mythe littéraire. C'est impossible d'inviter ces gens-là au Maroc, ni à Tanger, quoi. C'est des choses qui rendent service aussi. C'est une espèce de dynamique. Il y a des gens qui en profitent.
Nous, on n'a pas voulu créer de la désillusion par rapport à Tanger, mais on a voulu, en tout cas, à travers ce numéro, changer un peu le regard sur le mythe. Alors, sur quelques fragments, avant que je passe la parole à Adris Xiques, quelques fragments, je veux dire, justement, du paysage littéraire, intellectuel, de ce qui est aujourd'hui à Tanger, justement, loin de ces figures étrangères mythiques et qui, finalement, font écran et portent ombrage à ce qui peut se jouer dans la ville.
Justement, M. Rabet, c'est le meilleur exemple, finalement, quoi. Puisque quand Paul Bowles est mort en 99, M. Rabet est mort, puisqu'il avait plus son crayon. Donc, c'est très caractéristique de Tanger. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. M. Rabet, c'est un cas particulier, puis il a quand même 72 ans. Mais il y a des gens qui ont 20 ans, qui font de la musique, qui font de la littérature, et c'est impossible d'exprimer quoi que ce soit, puisque la place est déjà prise par les autres. Mmh. Alors les autres, c'est les morts, ou alors les morts vivants, comme M. Ben Jelloun, qui sont des écrivains de salon.
Donc Driss Sikès, alors vous voyez que comment dire, Tanger est une ville qui suscite quelques débats, où on habille de costumes les uns et les autres, où certains peuvent avoir parfois la dent très dure. Il y a au fond, c'est le sens du texte Driss Sikès que vous avez écrit pour La Pensée de Midi. On sent dans cette ville au fond le désir de l'ailleurs. Et en même temps, le mur invisible, disait Michel Peraldi, mais qui est quand même bien là, et qui, pour un auteur de théâtre, de récit comme vous, au fond, un peu une source littéraire dans laquelle on a envie de venir puiser. Driss Sikès.
Si tu permets, je vais peut-être lire un passage de ce texte dont tu parlais par rapport à cette question du mur, parce que c'est à partir de là que je voudrais faire une petite réflexion sur la question de la frontière et la question de l'ailleurs.
Donc le texte s'appelle « Un mur de mer ».
Puis vient ce mardi 30 août 2000, trois points de suspension. Ils ont le regard vide, le visage défait, les larmes à peine contenues, un sentiment d'impuissance. Il n'y a plus de mer. Comment ? Plus de mer. Plus de mer. Plus de mer. Tous répètent la même phrase. Tous ont soif de savoir. Même les enfants qui n'osent jamais franchir le seuil de ce sombre café s'approchent un peu plus de ce qui leur semble être la grotte du savoir. Tous veulent percer le mystère. Que s'est-il passé ? Ouvrez votre livre. Retrouvez l'origine du drame. Comment cela se fait-il ? Des mers asséchées. Du béton partout. Plus de voies d'accès à l'autre monde. Nous ne comprenons rien. D'ailleurs, il n'y a rien à comprendre. Les mers sont éternelles. Ils ont dû faire un cauchemar collectif. C'est une hallucination. Ba'lal reste interdit. Il perçoit à l'origine de ce malaise une hystérie aveuglante. Le lendemain, rebelote, ils ont un journal entre les mains. Et ce titre, « La mer est morte ». Je lis frénétiquement, croyant à l'effet trompeur de la métaphore, traquant les cadavres habituellement engloutis par la mer. Croyant à une hécatombe qui nous aurait valu ce titre dramatique. Et non, la mer est bel et bien morte. Les deux mers d'ailleurs, un mur de béton est érigé à la place. Plus de fluidité horizontale à traverser, mais une masse imposante à escalader. Plus de corps à dissimuler sous les vagues, mais des lambeaux de chair à exposer. Plus de sable pour amortir le choc des cadavres qui échouent au large, mais des barbelés pour les arrêter net à la naissance du rêve. Chacun y va de son explication. Basalah, privé d'une main renouvelable, brandit son Coran. C'est le jugement dernier qui se profile. Les yeux rouges, la voix tremblotante, il s'est transmué en 10 heures de mauvaise fortune. Autour de lui, les chômeurs expliquent ce cul-de-sac en puisant chacun dans le peu de savoir qu'il lui reste d'années d'études infructueuses. L'Europe avait fermé le robinet. Hercule était revenu pour prendre sa revanche. La civilisation méditerranéenne est emmurée. L'Afrique est sommée de se mordre la queue. Chacun y va de son commentaire, farfelu, entre une taffe de hache et une partie mouvementée de cartes. Voilà. Enfin, je pense qu'il est important de prendre conscience d'une chose. Tout à l'heure, Michel Peraldi disait que la frontière est externalisée. Moi, je dirais la frontière est vide. Elle n'existe pas. Moi, j'ai toujours été marqué à Tanger quand vous allez le soir devant le port voir ces enfants qui accourent pour s'accrocher aux camions de tir qui traversent à toute vitesse. C'est un spectacle régulier, tous les jours, etc. C'est le seul, peut-être, le seul acte symbolique qui explique ce que c'est que la frontière ici. Mais quand je dis, enfin, cette métaphore de la mer qui n'existe pas, c'est au fond, je pense, toute la problématique de la citadelle européenne. Tanger, c'est vrai que la métaphore, je parle un peu de ça à travers Tanger, mais en fait, pour moi, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que le nord marocain, le Maroc aujourd'hui, il est quoi au nord? Tanger à côté, Ceuta et toute cette place où il y a la Méditerranée, où les gens veulent passer. Eh bien, tout simplement, le Maroc est devenu une terre de transit qui est devenue un cul-de-sac. Hein, les subsahariens qui viennent d'en bas, qui viennent normalement dans un pays de transit, se retrouvent dans un cul-de-sac, ils y restent, ou bien ils vont en Mauritanie, ou bien ils vont en Libye pour essayer d'aller en Italie, ou bien en Mauritanie pour faire 5 heures de barque vers Las Palmas, ou bien, et sinon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi ces Marocains qui, de toute façon, n'arrivent plus à chercher à traverser à partir du nord.
Ça a été ce ne sont pas des Tangérois qui cherchent à passer.
Non, ce ne sont pas des Tangérois. C'est des gens qui viennent du sud, ou bien des gens qui sont pauvres dans les quartiers pauvres encerclant Tanger. Donc, mais juste pour terminer sur cette question de la frontière aussi, c'est que faut comprendre le rapport à la frontière au Maroc et le rapport à la frontière tel qu'il est conçu par l'Europe. C'est deux choses différentes. Le Maroc est un pays qui a toujours, qui depuis l'indépendance a un problème de frontière. Il a la frontière est avec l'Algérie, qui n'a jamais été, qui reste un passoire tout en étant un passoire informel. C'est un passoire informel. La frontière avec la Mauritanie, vous savez ce qui c'est le problème du Sahara qui est dedans. Et aujourd'hui, il y a tous les problèmes qui sont liés au terrorisme qui sont autour de cette question, et aussi des questions de flou autour de cette frontière. Et la seule frontière qui reste dans laquelle les gens ont une possibilité de passage vers l'ailleurs et le nord. Et hélas, l'Europe a décidé tout simplement, par à-coup, à partir de Schengen et tout ça, tout simplement de faire du flux humain, un flux qui est régulé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration choisie. Qu'est-ce que cela crée ? Cela crée, moi je sens aujourd'hui Tanger, je sens que Tanger est en train de risque d'éclater. Pourquoi ? Parce que Tanger s'est artificiellement grossi de manière incroyable. Mais le nombre de quartiers périphériques où il y a de la misère est énorme à Tanger. Alors que le centre est un centre très petit, très, 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 très rikiki.
Et quand on parle de Tanger, on parle souvent uniquement de ce centre, justement.
Oui, voilà.
On l'oublie.
Donc, il y a une excroissance artificielle qui s'est faite autour de Tanger. Et on dirait tous ces gens-là qui sont autour et qui, je les vois moi, comme si tous voudraient bien partir. Une anthropologue américaine d'origine italienne, Stefania Pandolfo, qui a fait un travail merveilleux, on l'a entendu au Salon du Livre la dernière fois.
De Tanger.
De Tanger sur les immigrés, sur les gens qui veulent brûler, l'harraga. Elle parlait de cette notion d'ennui, de volonté d'en découdre, de volonté de passer, que les gens ressentaient, qui est général, qui est vraiment général. Donc, si vous voulez, pourquoi je dis aussi qu'il risque d'éclater ? Parce qu'il y a l'islamisme qui est très présent à Tanger, et il est là, il y a cette vie de nuit, mais vous savez, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une vie de nuit glauque et n'est pas aussi festive qu'on le croit, et en même temps, il y a un islamisme qui est là, un moralisme, un puritanisme qui est présent, qui est pesant. Donc, c'est tout ça qui est à Tanger. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je voudrais faire, si tu permets, Thierry, c'est aussi savoir qu'effectivement, aujourd'hui, Tanger est en train de se développer économiquement. Il y a le port de Tanger Med, qui d'ailleurs est à 30 km de Tanger. Il n'est pas à Tanger, il est à 30 km de Tanger. Et c'est vrai qu'il y a peut-être de l'activité économique qui va venir à Tanger.
On dit que création de 300 000 emplois,
voilà, exactement,
des Renault qui vient s'implanter. Enfin, on sent que quelque chose est en train de naître là.
Voilà, mais vous allez me permettre d'essayer de comprendre avec vous ce problème. Tanger est une ville qui a été isolée pendant très très longtemps pour mal aimée par le roi Hassan II. Le roi Hassan II on a toujours voulu aux gens du Rif. Et donc les avait traités d'apaches, et donc le nord a été pendant très très longtemps banni. Alors puisque nous sommes dans des territoires où le corps du roi, où l'État est habité, est symbolisé par le corps du roi, donc la mobilité du roi détermine l'intérêt qu'on porte au lieu. Le nouveau roi Mohamed VI aime beaucoup le nord, donc sa mobilité vers le nord a fait qu'il y a eu de l'intérêt pour le nord. D'ailleurs, vous le savez tous, c'est un jet skieur et il adore aller faire du jet ski à côté de Tanger.
Donc, tient le développement d'une cité?
Alors, c'est très important quand même de savoir. Quand je dis le territoire est lié au corps du roi, ce n'est pas une boutade. Les études politiques de politologues et sociologie du Mrazen, qui est le système politique marocain, la notion même de l'État-nation n'existe pas. Nous avons un État qui est chevillé au corps de la royauté. Donc
quelques doutes sur l'avenir, on va peut-être terminer cette phase-là.
Pour répondre à ta question, donc cet intérêt, il existe. On est peut-être en train de créer des emplois autour, etc. Mais qui va prendre ces emplois? Aujourd'hui, le Maroc se rend compte qu'il n'a pas les moyens humains parce que malheureusement, le Maroc n'a pas tablé sur l'école. Le Maroc a tablé sur une école de l'élite. Et l'école d'élite fait que nous avons des gens d'élite qui, quand ils terminent, ils préfèrent aller travailler en France ou en Angleterre ou ailleurs plutôt que de rester là-bas. Donc aujourd'hui, ceux qui viennent travailler là-bas, c'est plutôt, on fait venir des ingénieurs d'Algérie, on fait venir des gens de plusieurs pays pour faire en sorte que cette activité économique florissante puisse continuer. Mais à la limite, j'ai peur que ça devienne une bulle économique qui n'ait pas de relais au niveau social. Ça veut dire, on va peut-être vers de l'efficacité économique, mais de l'inefficacité sociale. C'est peut-être là le paradoxe qu'on risque de vivre, et Tanger en est peut-être un exemple.
Donc c'est là où on ne peut pas dissocier les logiques politiques, économiques et de développement territoriaux de la ville de Tanger. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est que aux frontières de l'Europe, aujourd'hui, il y a entre 1500 et 3000 morts par an de gens qui cherchent à passer. Et dans un silence retentissant et dans une indifférence absolument considérable. Regardez les réactions internationales qu'il y a, et je les trouve tout à fait fondées et justifiées et heureuses à propos de ce qui s'est passé au Tibet. Mais sur ce rapport brutal à la frontière, silence, ou quasiment. Et donc je crois que l'Europe ne mesure pas la dynamique d'exclusion et de violence qu'elle crée à ses propres frontières, et ça a un coût humain extrêmement important. Je crois qu'il faut essayer d'en prendre la mesure. On l'avait fait à l'occasion d'une des éditions des rencontres d'Averroès, justement sur les questions de frontières. L'idée de parler de Tanger, c'est aussi de mettre l'accent là-dessus. C'est pas qu'une ville de passage, mais il est évident que c'est une, de ce point de vue-là, un lieu extrêmement important où des choses se sont jouées, même si aujourd'hui ça s'est déplacé à Ceuta et Melilla, et que, comme le souligne souvent Michel Paradis, il y a d'autres types de fluidité de passage qui peuvent exister. Il n'y a pas que ce rapport brutal à la frontière. Tout ça est beaucoup plus compliqué. Donc une autre facette du rapport entre Marseille et Tanger, là aussi assez dur, je crois. Je pense que c'est à vous de le présenter. Vous avez sollicité pour nous dire que Tanger, c'est pas simplement de la littérature. Comme vous l'avez vu ce soir, on n'a pas parlé que de littérature et d'imaginaire. On a aussi parlé de la réalité un peu brutale de ce qui se passe dans cette ville. Voilà une autre facette dont vous pouvez nous parler avant donc la projection du film que je présenterai tout de suite de Leïla Kilani.
Tanger comme ville d'arrivée aussi. Pour,
C'est une ville de départ, mais aussi une ville d'arrivée.
Une ville d'arrivée aussi pour les jeunes majeurs qui se font expulser.
Dire deux mots de qui vous êtes et du réseau Éducation sans frontières.
Alors moi, je m'appelle Fanny de France, je suis au réseau Éducation sans frontières. Et c'est un réseau en fait qui se mobilise dans toute la France et maintenant aussi dans d'autres pays, comme au Maroc. Il y a maintenant une antenne de RESF au Maroc contre l'expulsion des parents et des élèves sans papier. Donc ça s'est mobilisé à partir des écoles, mais ça déborde. Et là, la situation en fait qui m'a fait venir ce soir et qui parlait de Tanger aussi, c'est une expulsion qui a eu lieu en fait en décembre. Une jeune fille qui s'appelle Samira Bobouche et qui a vécu à peu près 7 ans en France et qui malheureusement, il y a eu un contrôle. Elle était en voiture avec ses cousins. En fait, elle allait se rendre à l'hôpital avec son cousin. Contrôle sur le bord d'un rond-point. Et là, les policiers l'ont gardée parce qu'elle n'avait pas le papier. Alors, elle n'avait pas de papier, en fait, pour une raison très simple, c'est que le regroupement familial devient de plus en plus difficile à obtenir pour les personnes qui vivent et travaillent depuis des années en France. Et son père, en fait, ça fait 35 ans qu'il travaille ici, comme ouvrier agricole, et il n'a jamais réussi à obtenir le regroupement familial. Donc, il est venu avec ses deux filles. Donc, Samira a une jumelle qui s'appelle Saïda, qui est toujours à Marseille. Et donc voilà, comme il ne gagnait pas assez d'argent, son père, il n'a jamais réussi à obtenir le regroupement familial. Donc les deux filles ont vécu ici, enfin dans un village à côté de Marseille qui s'appelle Velot, faisaient leur vie ici. Samira, elle est arrivée au collège en fait, elle a fait toute sa scolarité au lycée professionnel de Saint-Chamas. Avant de se faire arrêter, elle travaillait dans une association pour les enfants autistes. Donc elle était dans le projet en fait d'obtenir une qualification d'aide médico-pédagogique. Et patatras, le contrôle sur le bord de la route, ils l'ont gardé. Alors elle était un petit peu protégée dans le village à Velot, il n'y a pas beaucoup de contrôle, mais bon, à Marseille, c'est pas vraiment la même situation. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain en gardée à vue à Vitrolles. Et là, c'est tout un univers qui bascule, quoi. Parce qu'elle, elle se sentait protégée parce qu'elle avait fait sa scolarité au collège, au lycée. Elle pensait pas que ça pouvait lui arriver. Et du coup, elle s'est retrouvée au centre de rétention du Canet, qui est pas très loin d'ici, à La Joliette. Et elle est restée 14 jours au centre de rétention. Et c'est là qu'on est allé la rencontrer.
Centre de rétention où quasiment personne n'a accès, si ce n'est la CIMANE, je crois.
On peut y aller quand même. On peut rendre visite aux retenus, mais il faut déposer sa carte d'identité. Tout ça, c'est possible quand même de rendre visite aux retenus, mais c'est vrai que l'accès est très, très limité. Donc elle est restée 14 jours là-bas. On a essayé de faire des pieds et des mains pour essayer de la faire sortir. Il y a eu une première tentative d'expulsion en fait à l'aéroport de Marignane. À l'aéroport, donc il y avait une centaine de personnes qui sont venues, des gens de son village, les anciens professeurs, le CPE, tout ça. Elle a refusé l'embarquement, ce qui était quelque chose de très courageux parce que il a fallu quand même tenir tête à tous les policiers qui voulaient la mettre dans cet avion. Elle a dit je refuse d'embarquer et ils l'ont remis au centre de rétention. Et là, malheureusement, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées vu qu'ils ont essayé de l'expulser par bateau. Et là, par bateau, c'est beaucoup plus compliqué de s'opposer à son expulsion parce qu'on est en fond de cale et on ne peut rien faire. Donc voilà. Donc c'est une situation qui est assez, assez difficile, quoi. Maintenant, elle est à Tanger. Elle a été expulsée, en fait, sans valise, sans rien du tout, à Tanger. Elle n'a même pas pu dire au revoir à son père. Enfin, c'est assez terrible, quoi.
Donc... Voilà, Tanger, ville frontière, ville de départ, mais aussi ville de retour par force. Je crois que c'était aussi une façon de parler de cette ville difficile, mais aussi une ville inspirée. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là, que c'est une ville magnifique, très intéressante, complexe, effectivement extrêmement entremêlée, là où les deux rives de la Méditerranée se touchent des yeux. Et je pense que c'est, sans se voiler la face, regarder un peu l'avenir de Tanger dans les relations cette ville pourrait avoir avec Marseille et avec d'autres villes de la Méditerranée.
Vous écoutiez la table ronde qui s'est tenue à la bibliothèque départementale Gaston Defferre le 25 mars 2008 autour de la sortie de Tanger, ville frontière. Le dernier opus de la revue La Pensée de Midi, avec Myriam Cher, Simon-Pierre Hamelin, Driss Xiques et Michel Peraldi. La discussion était animée par Thierry Fabre. Toujours autour de la Méditerranée et de Tanger, La Pensée de Midi vous convie ce samedi 29 mars au Dock des Suds, dans le cadre de Babel Med. C'est à partir de 14h30. Plus d'infos sur le site www.lapensedemidi.org.